Salut à toutes, salut à tous. Vous écoutez le supplément de Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Et cet épisode complète, l'épisode hebdomadaire qui a été diffusé le 13 mai 2025. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je reçois pour cet épisode Julien Bayou, avocat et député de la 5e circonscription de Paris de 2022 à 2024. Bonjour Julien.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup à toi. Tu es à l'initiative avec d'autres cabinets d'avocats, tu vas nous donner les détails, mais d'une action collective à l'encontre d'Apple qui concerne la confidentialité des données. Alors, on sait que c'est un sujet sensible pour Apple et pour l'univers Apple. Est-ce que tu peux, juste avant qu'on aborde le fond du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une action collective et est-ce qu'il y a des précédents en France ?
Oui, alors merci, c'est vraiment intéressant qu'on puisse en discuter. Donc moi, je suis avocat et avec un autre cabinet d'avocats qui s'appelle FAOS et qui est spécialisé dans les données confidentielles, la protection des données, le RGPD. On m'a lancé donc cette action alors collective qui est inspirée d'une class action américaine. Et donc, c'est là-bas qu'il y a vraiment des actions, les vraies actions de groupe, comme on dit. Hein, en droit, on distingue les différentes actions de groupe, collectives et autres. Les class action, c'est les fameuses américaines qui font plier les mastodontes. C'est les grands tribunaux et c'est celle aussi où souvent les grands groupes peuvent négocier un accord. Et donc, on a vu passer évidemment les révélations de Thomas Le Boniek, un lanceur d'alerte sur les questions de confidentialité des données qui concernent l'assistant vocal d'Apple et Siri. Mais en vrai, d'autres grands groupes sont concernés également. Et il y a une action de groupe aux États-Unis qui a prospéré jusqu'à ce que Apple, début janvier, leur propose un accord 95 millions de dollars, donc à peu près autant d'euros, pour arrêter le litige, et ce qui représentait 20 dollars par appareil pour les plaignants qui s'inscrivaient dans cette procédure. Ce qui a donné suite en France à une plainte au pénal de la Ligue des droits de l'homme. Je pense que t'as dû en faire mention, c'était en février. Qui prend appui sur les révélations de Thomas Le Boniek, je pense qu'on y reviendra. Le pénal, c'est la société qui punit. C'est-à-dire que si tu me voles mon téléphone, il y a la société qui punit, c'est le pénal, et puis moi, je te demande de me rendre mon téléphone ou de me rembourser, ça, c'est le civil. Et donc, la Ligue des droits de l'homme n'est pas allée au civil, pour plein de raisons. Et donc, avec ses consoeurs, Olivier Roche et Evan Odon de FAOS, on propose d'aller au civil. C'est-à-dire que indépendamment de la procédure de la LDH, de la Ligue des droits de l'homme, on demande, voilà, puisqu'il y a eu vraisemblablement violation du RGPD, je pense qu'on va y revenir abondamment, les usagers d'Apple sont en droit de demander une réparation du préjudice, du dommage. Donc, c'est pas à proprement parler une action collective parce que quand ça a été adapté des États-Unis, en vrai, c'est fait pour que ça marche pas. Les vraies actions de groupe à la française, ça marche pas. Bon, à tel point que l'Europe a claqué du poing sur la table, a refait une directive parce que vraiment la version française marche pas. Et ça a été récemment mis à jour, mais uniquement pour la cessation du manquement. Donc t'as un vrai problème là, je sais pas, comme on peut avoir là, par exemple des airbags qui posent un gros problème sur les bagnoles. Tu peux faire une action de groupe sur la cessation du manquement, qu'ils arrêtent de produire des airbags défectueux, mais pas sur la réparation des problèmes que tu as pu avoir. Donc c'est vraiment verrouillé côté français. Et donc, je termine de répondre, désolé, j'étais un peu long, mais
c'est important
une action individuelle coordonnée. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont levé la main, en gros, pour dire « ça m'intéresse votre mobilisation ». Ça sera à chaque fois une action individuelle, mais évidemment avec le même cabinet d'avocats, le même argumentaire, le même tribunal, puisque on attaque le tribunal d'Apple, enfin, le tribunal du siège d'Apple. Et donc, ça revient, en gros, à une forme d'action collective ou individuelle coordonnée, un peu comme ça. Mais on est contraint par le fait que le cadre juridique est vraiment très différent du cadre américain.
Ok, bah écoute, c'est bien qu'on redonne quand même ces éléments de pédagogie et de contexte. Tu cites effectivement le lanceur d'alerte Thomas Le Boniek. On peut redonner quelques éléments de contexte. C'est quelqu'un qui a révélé qu'il y avait des très nombreux enregistrements bien souvent très personnel, qui était écouté par des humains. En fait, lui, il travaillait dans une société qui était sous-traitante d'Apple, souvent sans que les utilisateurs en soient informés ou aient donné leur consentement explicite. Et puis lui-même témoignait du fait d'avoir écouté des milliers d'extraits chaque jour. Et il constatait qu'il y avait beaucoup de ces extraits qui étaient déclenchés sans avoir intentionnellement demandé à parler à Siri, à l'assistant vocal d'Apple. Donc, c'est des déclenchements involontaires. Et puis, c'est des extraits qui pouvaient contenir des informations évidemment sensibles, intimes, on l'imagine. Il y a des conversations privées, mais il y a aussi des données, évidemment, ça va avec, des données médicales, des coordonnées bancaires. En fait, à partir du moment où on déclenche comme ça une conversation de manière indésirable, bah forcément, il y a plein d'informations qui sont problématiques, qui peuvent fuiter. Il y a aussi sa vision et ce qu'il rapporte Thomas Le Bonniec de la manière dont il était incité à traiter la majorité des enregistrements, lui et ses collègues. Hein, donc, même quand il y avait un doute qui subsistait sur le caractère volontaire ou accidentel du déclenchement. Pour être clair, Julien, dans cette démarche, quelle est l'intention qui est ciblée? Est-ce que c'est globalement la manière dont Apple capte les déclenchements à la voix des utilisateurs au quotidien? Est-ce que ça concerne une période en particulier? Est-ce que tu peux nous donner un peu le périmètre qui est concerné par cette action?
Oui, mais c'est vrai qu'on prend appui sur j'allais dire les travaux, le courage de Thomas Le Bonniec, parce que quand il révèle ces aspects-là en 2019, il prend un risque énorme, hein. Aujourd'hui, c'est un véritable lanceur d'alerte reconnu par grâce à la procédure d'ailleurs de la Ligue des droits de l'homme. Depuis, on trouvait bizarre que aux États-Unis, il y ait une proposition d'indemniser les consommateurs et pas en Europe. Alors que si je mets de côté tout ce que je vous ai dit sur la procédure qui est complexe, ceci, cela, le cadre juridique, il est plus protecteur en Europe, en théorie. Mais personne le faisait valoir. Donc voilà, nous on était interpellés. Si outre-Atlantique, alors que le cadre est moins protecteur, Apple accepte de négocier, quid de ce côté-ci en fait? On n'a pas vraiment les chiffres. Moi, je comprends qu'il y a 4 millions d'usagers potentiels, peut-être un peu plus même, si on compte les différents appareils équipés de Siri, donc iPhone, iMac, Apple Watch, etc. En fait, ça fait un paquet de gens et un paquet de personnes qui ont pu être écoutées. Je sais qu'il y a un débat sur est-ce que c'est utilisé à des fins publicitaires ou non. Je sais que c'est même un débat, comment on appelle ça, pas violent, mais enfin, on aime bien se prendre le chou là-dessus au sein de la communauté tech et en particulier entre Apple et non-Apple. Enfin, moi, d'ailleurs, je veux bien qu'on en débatte. Mais je pense qu'on s'est habitué dans ce pays à vitesse grand V à des violations massives du RGPD. Et à ne pas réagir. Si je prends ce que révèle Thomas Le Bonniec, et on met de côté le fait que ça ait pu servir, par exemple, à entraîner une IA ou à faire un profilage publicitaire. Je te dis flambi là.
Quelles que soient les fins d'utilisation, quelque part, on peut mettre de
Ouais,
côté les fins
mais il
d'utilisation.
faudra y revenir. Mais admettons. Un peu le schéma où je parle de flambi et demain j'ai de la pile personne. Mais même sans ça, même sans la finalité comme tu dis, on a même si c'est pour enregistrer améliorer entraîner Siri, en fait il faut le dire, il faut un consentement explicite et ces grands groupes,
C'est ce qu'ils font depuis 2019, mais c'est vrai
il a
qu'avant,
fallu leur taper sur les
ils
doigts.
étaient pas clairs.
Voilà,
Voilà, ouais.
on voit encore le truc caché, Google est spécialiste de ça, notamment sur la localisation. Pour aller chercher la localisation et arrêter de le pister, il faut vraiment aller le chercher dans pas mal de...
Les fameuses dark
Et
patterns,
voilà, c'est ça.
effectivement.
Après, tu as un transfert, parce que Le Bonniec, il était... Donc, si personne remet en cause le fait que ce qu'il dit est vrai, il était en Irlande. Donc, un transfert en dehors de la France, en tout cas en dehors de l'appareil que tu as chez toi, jusqu'en Irlande. Très bien. Puis, lui, il était prestataire d'Apple. Donc, tu as un transfert en dehors de la société mère, qui, là encore, à aucun moment, personne qui a dit Siri a été amené à le valider. Et puis, c'est des déclenchements involontaires, tu l'as dit, qui n'étaient pas liés à un mauvais déclenchement. C'est pas qu'en fait, on est en train de discuter de la Syrie et de géopolitique, et puis par hasard, ou de je sais pas quoi, de couper du bois, et puis tu parles de la Syrie, et le truc que se déclenche, enfin, on comprend. C'est pas ça, là. C'est vraiment rien à voir. Il entendait, il retranscrivait ou il surveillait la retranscription d'avocats qui parlaient à leur client, personnes qui parlaient à leur médecin, de personnes. Ouais, il m'a dit, moi, des personnes qui disaient l'amour. Ça, c'est très embêtant. Alors, je sais pas à quel moment les gens de Syrie. Bon, bref, je m'égare. Mais donc, évidemment, des conversations extrêmement sensibles. Et donc, on a envie de dire, quoi qu'il en ait été fait, ça pose un problème. Et c'est vraiment très surprenant que, je le dis un peu pour taquiner les pro Apple, ou ceux qui disent, ouais, ça va, c'était pas pour de la pub. C'est vraiment très surprenant que, parce que c'était pas pire, ça va. C'est le type qui, il est à 170 sur l'autoroute. Et il se fait arrêter, et il dit, attends, ça va, j'étais à 220 tout à l'heure, là. Soyez sympa. Voilà, donc, je dis certainement pas qu'Apple, c'est le pire. Moi, je pense, par exemple, qu'il faudrait vraiment réagir très, très fort sur TikTok, sur la manière dont ils ont accepté que des enfants, oui, des enfants de moins de 13 ans s'inscrivent, ou que les données ont été carrément transférées en Chine. Donc là, c'est pas l'Irlande, c'est un régime autoritaire. Plugin direct.
Ou Meta sur les plateformes sociales ou
Oui.
Google avec notamment Android
Oui,
d'ailleurs.
bien
Oui.
sûr. Ce qu'il y a, c'est que là, on a les éléments. Voilà. Donc le pénal est lancé, donc il y aura des enquêtes. Apple a non pas reconnu les faits, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'ils ont reconnu les faits. Mais enfin, ils ont proposé de dédommager. Ce qui peut se faire aux États-Unis peut se limiter en Europe. Et il y a les éléments d'un lanceur d'alerte. Mais sur Meta, tu disais Meta, moi je suis choqué là. J'ai reçu cet email qui dit que on a jusqu'à 27 mai, je crois,
Pour
pour
accepter,
opt-out,
enfin pour refuser plutôt
refuser.
l'entraînement des modèles de langage sur tes
Oui,
données. Ouais.
pour opt-out. Et là j'ai eu un moment de vertige, c'est-à-dire que la mauvaise blague que j'ai faite en 2014, qui m'a valu 3 likes, où je sais pas ce que j'ai fait parce que j'avais dit une bêtise, etc. Je l'ai oublié. Mais si j'avais pas vu passer cette email, l'IA le retient. Et le retient potentiellement contre moi. Ce qui fait qu'à la fin, cette IA, alors, je dis pas que mes données sont particulièrement précieuses, évidemment, mais cette IA finit par connaître plus de choses sur toi, sur soi, que la personne elle-même. Et là, on ne sait pas comment désentraîner l'IA. Y a-t-il la fameuse loi de 78 que tout le monde connaît, le droit d'accès, rectification des données, suppression, ceci, cela, on voit partout. Comment on fait avec une IA? Voilà. Et donc, je comprends que ça puisse paraître férocement anti-Apple, mais c'est pas tant que ça en fait en vérité, parce que dans la plupart des, j'ai regardé un petit peu les stats qu'on peut faire à partir des gens qui ont marqué un intérêt pour la procédure. Le premier critère, étonnamment, on leur demande pourquoi ils ont choisi Apple, c'est l'écosystème. Et de fait, ils ont plusieurs appareils. Et donc, moi, j'en déduis que c'est pas des anti-Apple, parce que précisément ils ont plusieurs appareils et ils y sont venus pour l'écosystème, la simplicité. Enfin, ils disent écosystème, voilà. Donc on a plutôt des gens qui sont fans d'Apple, je sais pas, mais en tout cas contents, voilà, d'Apple. En tout cas, voilà,
Ils sont en affinité
oui,
avec
ils sont
Apple.
pas allés voir Huawei pour le prix. Voilà. Ils ont accepté un premium pour Apple, précisément pour ces questions de peut-être de sécurité, de design, hein, de simplicité, voilà. Donc on lance cette procédure, mais moi j'ai bien conscience que il en faudrait une contre Meta sur cette affaire de consentement éclairé à ce que ces données soient utilisées pour entraîner l'IA, et il en faudrait, si c'est pas une, peut-être une demi-douzaine contre TikTok. Voilà. Et s'il y a des gens qui veulent s'y consacrer, je suis en soutien.
Chaque
Mais
chose
oui.
en son temps, j'allais dire. Au passage, hein, peut-être une précision, on évoque cette indemnisation qu'a faite Apple pour effectivement un montant de, c'est quoi, c'est 95 millions de dollars, je crois, pour mettre fin en fait à cette démarche. Il faut rappeler, ça ne signifie pas factuellement qu'ils sont coupables de quelque chose, mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se dire, quand tu es prêt à débourser, quand bien même tu es Apple, 100 millions de dollars pour mettre fin à une poursuite, c'est que tu estimes que ça te coûterait forcément plus cher d'aller au combat et que tu as plus à perdre à aller au combat qu'à faire ce chèque. Donc évidemment, ça peut entraîner d'autres
Ouais,
questions derrière.
absolument. C'est très important de dire que ça ne vaut pas reconnaissance de culpabilité de la part d'Apple. L'autre élément, c'est que le juge devait se prononcer. En fait, c'est un accord proposé par Apple le 3 janvier, et le juge avait au départ dit, je me prononce le 14 février. C'est pour ça que la Ligue des droits de l'homme a lancé le 14 ou le 13 son action en France. Mais le juge a finalement dit qu'il se donnait jusqu'à août pour trancher. Ce qui peut venir deux choses. Bon, bah, il est débordé, il renvoie à août. où la somme proposée n'est pas suffisante. Ce qui voudrait dire qu'il demande à Apple de faire un geste supplémentaire ou qu'il dit le deal est pas bon, quoi, ça marche pas et on va vraiment au procès. Voilà. Moi, je n'ai pas plus d'éléments à ce stade, mais la décision est pour août.
C'est peut-être compliqué de répondre à cette question, Julien, mais c'est quoi ton intime... Est-ce que tu as une intime conviction est-ce que tu arrives à te mettre dans la tête des dirigeants d'Apple ou en tout cas de la société Apple, sans aller cibler les collaborateurs, mais de la société Apple, dans cet état de fait de capter des enregistrements? Je te pose la question parce qu'effectivement, très souvent, quand on aborde ce sujet, on a, et tu as raison de le souligner, c'est une motivation d'affrontement assez virulent, parfois même dans le grand public, dans les repas du dimanche, quand on soutient qu'on est ciblé d'un point de vue publicitaire parce qu'on a parlé de quelque chose et on pense que notre smartphone nous a enregistré et comme par hasard, bah, ça va nous mettre en avant ce voyage aux Caraïbes dont on a, au grand Dieu, jamais parlé avant. Nous, on a une position assez ferme dans le podcast et même à titre individuel. On a vraiment cette conviction que les entreprises, et même sans parler d'Apple, hein, ne vont pas jusqu'à activer le micro en permanence pour capter nos conversations et pour faire du ciblage publicitaire parce que ce serait bien trop lourd dans le traitement, même si évidemment, aujourd'hui, l'entraînement des modèles de langage permet presque de relativiser ce genre de choses. Quand on sait la masse de données que digère OpenAI pour, par exemple, entraîner un GPT, mais quand même, ça demanderait un volume de données énorme qui se verrait d'ailleurs sur les abonnements mobiles. Et quelque part, ce qui est fou, c'est que ça ne se justifie pas parce qu'aujourd'hui, les ciblages publicitaires sur la base de signaux bien plus faibles que des conversations arrive à obtenir des performances assez remarquables. Et puis, il y a aussi ce syndrome que j'aime bien rappeler, qui est le syndrome de la voiture, qui est que bah, on se met à remarquer toutes les voitures du modèle et de la couleur donnée qu'on croisait sur la route, alors qu'on ne les voyait pas avant. Mais à partir du moment où on a décidé de l'acheter ou de la prendre en location, subitement, on la voit par centaines, alors qu'on la voyait beaucoup moins avant. Donc, il y a ce syndrome aussi, qui est un biais cognitif qui nous oriente. Mais concrètement, toi, est-ce que tu as un parti pris par rapport à ça, une vision de ce qui pourrait motiver Apple là-dedans? Est-ce que c'est un défaut de fiabilité? Est-ce que c'est une mauvaise communication auprès des utilisateurs sur les risques induits par ce type de service, qui sont les assistants vocaux? Est-ce qu'il y a vraiment de la malveillance de captation et de vol de données? Réponse D, tu es dans une position où tu n'as pas forcément envie d'avoir une opinion personnelle.
Non, là-dessus. Je suis un peu agnostique. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois, il y a les distinguos qui sont entre ce qu'on peut penser soi et ce qu'on pense que les autres pensent. Je ne sais pas si c'est clair. J'ai vu passer les arguments, alors c'était peut-être les tiens d'ailleurs, mais bon, sur Twitter, qui disaient que si toutes les données étaient stockées et transmises, et bien effectivement, ça serait de la data, enfin, ça serait visible en termes de mégas ou gigas, que même si c'était retranscrit et puis seulement analysé, on verrait les textes, enfin voilà. Et c'est très convaincant. Ce qui est très convaincant aussi, c'est la consommation énergétique que ça représenterait et puis le faible gain. Parce qu'en vérité, comme tu dis, t'as pas besoin d'écouter Bayou pour savoir qu'il faut me vendre, je sais pas quoi, un abonnement d'escalade. Tu vois, il suffit que tu vois que bah, j'ai des chaussures d'escalade ou je sais pas quoi. Donc, on peut faire à moindre frais. Et puis par ailleurs, Bayou, ça, on s'en fout un peu, quoi. C'est-à-dire que quand il y a tellement de prospects, etc. Ça, c'est ce qui m'invite plutôt à avoir un détendre, entre guillemets, prendre ça avec philosophie. Ce qui me chagrine, c'est quand même qu'on, dans nos sociétés, par rapport à il y a 20 ans, évidemment, où ça n'existait pas, on n'est plus choqué de rien. C'est-à-dire que je me souviens très bien ça devait être Snowden qui avait fait des révélations sur le fait que les États-Unis et la France et autres s'écoutaient entre alliés. Alors, on parle de vrai espionnage, hein. Et ça avait fait un petit choc. Et là, on l'a eu il y a pas longtemps entre je sais plus quel pays, ça devait être les États-Unis et le Danemark, et ça a choqué plus personne. Vraiment, c'est jamais, à peine si on en a parlé. Et de la même manière, si on avait dit les infos, les données ont été transmises en Irlande ou en Chine il y a longtemps, ça aurait pu peut-être faire quelques un peu des mois. Et là, rien. Voilà. Et donc là, nous, on a des gendarmes, des militaires, des avocats, j'en passe évidemment, mais y a un secret professionnel qui est absolu entre l'avocat et son client. Et il faut que le client puisse pouvoir raconter tout ce qu'il a fait, un peu du même niveau que la confession, entre guillemets, avec un curé. Il y a tout un aspect où, évidemment, quand il y a un iPad qui traîne, bah, il y a des gamins autour, en tout cas dans une famille. Donc, bah, des enfants dont la voix est enregistrée. Alors, c'est pas forcément pour faire le mal, comme dirait, pour faire le do evil, comme disait Google. Mais enfin, ça pose un sujet quand même. Et c'était Amazon. Ouais, Amazon s'est fait taper sur les doigts aux États-Unis pour Alexa, précisément parce que l'enceinte avait conservé des enregistrements d'enfants. Mais il disait pas, c'est grave ce que vous en avez fait. C'est un problème en soi. Et je crois que là, ouais, cet aspect, moi, je trouve assez vertigineux qu'on s'habitue vraiment, ou qu'on baisse les armes, entre guillemets, à ce que des tas de pans de nos vies soient régis par des données, des algorithmes. Et sur un plan professionnel, avocat, j'accompagne des familles sur l'algorithme AffelNet, qui est l'équivalent de Parcoursup pour le bac. Bah, en fait, là, c'est encore une fois, on a un algorithme, personne ne comprend rien, c'était pour ça, on dirait. Quand tu rentres dedans, il y a des tas de trucs illégaux, enfin illégaux au regard du droit, problématiques ou autres. Et bon, on laisse tomber parce qu'on n'y comprend plus rien. Et donc il y a cet aspect-là qui me chagrine, le fait qu'on, entre guillemets, on s'habitue, on tolère de plus en plus.
Il y a une
Banal.
banalisation quelque part du constat de la transgression, et ce qui est d'autant plus problématique que l'encadrement légal est presque bien plus puissant qu'avant, ne serait-ce qu'en regard du RGPD en matière de collecte de données. Ça tient à quoi, selon toi, ce changement, cette banalisation? Enfin bon, on n'est pas en train de faire une analyse
Non, bah,
sociologique de la population,
après, moi,
mais.
je ne sais pas te répondre. Je sais pas te répondre. Mais c'est vrai que la révélation de Snowden avait fait un état. Alors, quand c'est des états, ça pose plus problème que quand c'est des entreprises, peut-être. En tout cas,
Et puis peut-être que c'était aussi un des premiers, finalement, qui se basait sur le numérique, qui se basait sur la connectivité, et que, bah, une fois qu'il y en a un, forcément les suivants ont peut-être moins d'écho,
ouais,
je sais pas, c'est, je
je veux pas faire
comprends.
le vieux combattant, tu vois, mais moi je me suis mobilisé vraiment comme un gueudin sur Adopi. Adopi, donc je sais même pas comment l'expliquer aux plus jeunes, parce qu'aujourd'hui tu reçois un recommandé, ça sert à rien, mais on disait c'est l'atteinte à la liberté, enfin on parlait vraiment de danger, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu reçois un Adopi comme tu l'avais pas fait. Mais il y avait des mobilisations, il y avait des parlementaires qui disaient je me battrai contre Adopi, enfin, c'était costaud. Puis des projets de loi renseignement, encore une grosse mobilisation, même après des attentats, enfin c'était voilà, banalisation de l'état d'urgence, ceci, cela. Et bon, là c'est vrai que il reste la quadrature du net, il y a quelques ONG sur les algorithmes utilisés pour la détection des patterns ou des ciblages des plus pauvres, notamment la CAF, etc. Enfin, par rapport à la montée, à la prise en puissance dans nos vies, oui, dans le cadre général de nos vies. Finalement, le côté épidermique a considérablement amenuisé. Voilà, c'est très étonnant.
Et on pourrait rajouter peut-être aussi un sujet qui reste fortement d'actualité et qui revient régulièrement, c'est le chiffrement des messageries. J'ai l'impression que là aussi, ça a l'air d'être un combat qui se succède, sur lequel, certes, évidemment, il y a des acteurs du numérique, il y a évidemment l'application Signal, mais il y a d'autres sociétés qui promeuvent le chiffrement dans leur application, qui défendent ce droit à la vie privée et au chiffrement sans backdoor. On en a parlé à moult reprises dans le podcast et puis dans l'actualité tech en général. Et effectivement, j'ai le sentiment que même dans les discussions politiques, c'est un sujet qui revient avec une forme de déni des soulèvements qu'il y a pu l'avoir par le passé. C'est aussi à ça peut-être que tu fais
Ça,
écho?
et oui, non, le dernier point que je voulais soulever, parce que j'ai mentionné Google qui disait don't do evil, ou Facebook qui se targuait d'avoir une meilleure modération que Twitter, ce qui n'était pas très compliqué, et qui bascule en un mois. Et ça a un petit côté vertigineux quand même, parce que ce qui était à peu près constant, serein en 2024, au 20 janvier 2025, les mecs disaient OK, bon, on s'aligne sur Trump, alors on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas leur basculement à eux a un impact sur nos vies, et ça c'est un petit côté qui peut inquiéter. Donc c'est vrai que quand il y a un cadre juridique qui vaut ce qu'il vaut, enfin le RGPD, il y a des points d'appui en tout cas, et qui n'est juste pas respecté du tout, et que on a juste abandonné. Alors encore une fois, si c'est avéré qu'il y a des ciblages publicitaires, ça fera réagir, j'espère, mais là, tu vois, le fait que bon, bah, il y a des enfants qui ont été machin, écoutés, des gens qui faisaient l'amour ou quelqu'un qui expliquait son homosexualité à ses parents ou je sais pas quelle maladie à son médecin. Bon, ben, en fait, c'est pas grave. C'est vraiment le type, il roulait à 170, mais comme avant, il roulait à 250, c'est quand même beaucoup moins grave.
Ah, c'est vrai qu'on relève aussi, hein, régulièrement, pour donner d'autres exemples dans le podcast, les problèmes qui sont amenés par exemple par les aspirateurs robots dont on a parlé, des images qui pouvaient être captées ou même des caméras embarquées dans les voitures connectées comme les Tesla par exemple, sur lesquelles il y a de l'analyse d'images. Et effectivement, tout cela n'est pas forcément fait avec l'éclairage et le consentement de l'utilisateur. Est-ce que, selon toi, il y a un défaut dans les institutions, dans le RGPD, pour qu'on puisse arriver dans de telles situations, ou c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de précédent de condamnation? Encore une fois, hein, je garde en tête le fait que, quelles que soient les motivations, ce qui est mis en avant dans la démarche que tu défends, c'est le fait qu'on n'a pas à avoir des données collectées à notre insu et qui soient analysées et pour lesquelles les traitements, on n'a pas donné notre consentement. Ça, je le comprends. Est-ce que, selon toi, il y a des choses qui devraient évoluer pour qu'on puisse améliorer les choses au quotidien?
Oui, alors il y a d'une part un cadre juridique qui est en retard, hein, c'est certain. Hein,
Malgré le RGPD,
ouais. Alors...
qui paraît pourtant être la Rolls, quoi. C'est vrai, quand on est européen, on est fier
Ah
du
non, bien sûr,
RGPD.
non, mais par exemple, on n'a pas. Bah alors, ça, là, nous, on s'appuie sur un préjudice d'anxiété de détournement des données. Donc, préjudice d'anxiété, c'est un fondement qui a été dégagé en France, notamment autour de l'amiante. Et peu à peu élargi à d'autres produits toxiques, les prothèses PEEP, évidemment c'est une prothèse mammaire, voilà, mais le levothyrox et d'autres produits pharmaceutiques. Et la Cour de justice de l'Union européenne en a dégagé un autre, mais inspiré. C'est en fait c'est pas le problème que tes données soient dans la nature, c'est le détournement qui peut en être fait. Et c'est assez intéressant parce que si ton email il est dans la nature, par exemple t'étais chez Free, bon ben Free est victime d'un piratage. Donc, est-ce qu'il faut faire payer la victime? C'est la vraie question. Il y a deux victimes. Il y a toi parce que ton email qui était chez Free est basculé, mais Free aussi parce qu'ils se sont fait voler et c'est pas bon pour leur image. Et donc, ils ont dit que la bonne manière, en gros, tout leak vaut pas dommage réparable. Mais si tu as des bonnes raisons de craindre que tes données sont utilisées à mauvais escient, c'est le cas par exemple des Ledger. Ceux qui avaient un crypto ledger, ils ont vu leur email, leur adresse, et maintenant il y a des gens qui les chassent pour des rançons. Bon, bah, il y a un préjudice d'anxiété. C'est-à-dire que même si les mecs se font pas attraper, ils dorment mal. On peut comprendre. Là, préjudice d'anxiété. La Cour de justice de l'Union européenne a dégagé ça sur un cas autrichien parce que en trois éléments, on pouvait identifier l'affiliation partisane d'un usager. Et bon, bah ça c'est sensible quand même, savoir voilà l'opinion politique et son adhésion politique, c'est sensible. Voilà. Donc préjudice d'anxiété. Mais pareil, quand je disais que c'est le cadre est un peu en retard, c'est que aujourd'hui on ne sait pas, ça n'a pas été appliqué en France. Donc on sait qu'ils doivent l'appliquer, mais on ne sait pas quel serait le quantum, quoi, quel serait le montant, quelle serait l'appréciation qui est faite sereinement par les juges. Et on peut imaginer que la première application, elle va être challengée, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, la boîte qui va, pour la première fois, tomber là-dessus, elle va pas le laisser passer. Donc, on en a pour quelques années, en fait, avant d'établir qu'est-ce que c'est le tarif, entre guillemets, hein, voilà, beaucoup de guillemets, pour le préjudice d'anxiété, ceci, cela, si c'est des données sur des enfants, si c'est le médecin qui s'est fait hacker son truc, etc. Donc le cadre il court après la techno, quoi. Parce que là on n'a même pas encore parlé d'intelligence artificielle, on a juste parlé de données, quoi. Donc ça c'est le premier point. Donc le cadre court après. Et puis le deuxième point, c'est que bah, bon, moi j'ai été parlementaire et je peux pas dire que je suis un geek ultra, mais bon bah la classe politique elle est en retard aussi, hein, bien sûr. C'est normal.
On le souligne effectivement quand on met en lumière certains échanges d'actualité qui portent sur la technologie. Bon, cela dit, pas que dans la politique, mais aussi dans le traitement des médias généralistes au passage. Une petite question d'acculturation aussi, c'est quoi la place de la CNIL par rapport à la démarche que vous faites? Est-ce que c'est un organisme qui pourrait être saisi à un moment donné? Est-ce qu'ils sont hors champ? Est-ce qu'ils se constituent comme étant partie prenante dans la démarche? J'aimerais bien savoir un petit peu la position de la CNIL par rapport à votre
Oui, ben
démarche.
nous, on propose à nos futurs clients, enfin ceux qui ont manifesté leur intérêt, d'engager deux procédures. La procédure civile, qui est la principale, on va dire, c'est celle qui motive, hein, puisque c'est celle qui peut donner lieu à une indemnité, l'indemnisation. on va demander le remboursement de l'appareil, l'équivalent. C'est-à-dire qu'on l'obtienne. Si Apple propose deal, on verra avec les clients. Et sinon, c'est le juge qui tranchera. Mais c'est une base en disant il y a une forme de tromperie. Voilà. Vous avez proposé un produit net plus ultra et en fait, il est défaillant ou même des problématiques. La deuxième procédure, qui est moins sexy et qui, je pense, est importante, c'est le signalement CNIL, que chacun peut faire librement. On n'a pas besoin d'un avocat pour ça. Mais qu'évidemment, si ou quand on dit que chaque personne engagée sur la procédure, on lui facilite le dépôt CNIL, eh ben en fait, on est sur des milliers d'un coup. Et ça amène à sanctions, j'espère. Mais moi, c'est là le point que j'ai en désaccord, c'est que quand la LDH va au pénal, elle est dans son rôle. La Ligue des droits de l'homme, pardon, va au pénal, elle va obtenir une sanction de la part de la société sur une entreprise qui a clairement outrepassé les règles, au moins du RGPD, bon, peut-être pas pire, mais voilà. Mais c'est vrai qu'une amende de quelques centaines de milliers d'euros à Apple, c'est ça le tarif en France. Bon, et oui, voilà, c'est pas, c'est moins, enfin c'est voilà, on a vu il y a pas longtemps là que Nestlé avait pris 2 millions pour avec une convention d'intérêt général, alors qu'il y avait des eaux problématiques et autres. Bon, rapporté au chiffre d'affaires ou au bénéfice, comme tu veux, c'est en fait,
C'est une goutte
ouais,
d'eau.
mais c'est même pire que ça, c'est que c'est un pouce au crime. C'est-à-dire que
C'est presque l'amende liée au stationnement qui coûte tellement peu cher par rapport à la place de
c'est ça.
parking que tu préfères tenter le
Un
coup
permis
et...
c'est un permis de bypasser la loi, exactement. Et exactement, c'est exactement ça. C'est quand c'est 15 balles l'amende et 25 pour passer pour être réglo. Bon,
Et tu as peut-être l'amende et tu payes toujours si tu es honnête
c'est
à
ça,
ta place de parking.
exactement ça. Ouais. Alors qu'au civil, en plus au pénal, donc les consommateurs, eux, sont étrangers à l'affaire, sont pas concernés, etc. Et là, il y a une dimension empowerment, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, tu peux participer, tu te réapproprie le droit. Au passage, éventuellement, tu as, j'espère, une indemnisation. Et puis, la masse fait, enfin, le nombre fait que, pour Apple, c'est plus pédagogique. Moi, j'ai participé à notre affaire à tous, au lancement, donc l'action, je pense, qui est connue sur le climat, de notre affaire à tous, Greenpeace, FNH et Oxfam. Ces grandes associations ont fait que la justice a reconnu que l'État était défaillant, s'était fixé des objectifs et il les tient pas. C'est un problème pour nous tous, d'où le fait de l'appeler notre affaire à tous. Mais à la fin, ils ont un euro symbolique. Donc il y a le symbole de la décision, mais bon, l'État pas super incité non plus. Je pense que si on arrive à coupler la décision symbolique, le droit qui dit ça c'était pas bien, c'est en tort, etc., et la réparation. Oui, c'est se réapproprier le droit, et le droit ne peut pas être un privilège pour quelques-uns. C'est intéressant.
Non, je comprends, c'est très intéressant, effectivement. J'ai quand même quelques questions avant de te libérer, et puis des questions extrêmement pratiques. Mais est-ce que depuis l'annonce de cette action, tu as eu connaissance d'échos ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a éventuellement des volontés à ce que cette démarche soit partagée dans d'autres pays ou...
Oui, absolument. Je me rends compte que j'ai même pas fait la pub de écouteabusif.fr. M'en veux.
On va la
Et
faire,
j'espère
t'inquiète
qu'il y aura
pas, on va faire la mention,
d'autres
évidemment. Non, c'est ce que je voulais dire en parlant de questions pratiques,
Ouais,
justement.
non, mais je me rends compte. J'espère qu'il y aura d'autres versions européennes de écouteabusif.fr. Non, non. Plus sérieusement, j'ai pris attache avec None of Your Business, qui est donc une des ONG au niveau européen sur la question des écoutes, des algorithmes, des intrusions dans la vie privée, qui jusqu'ici, parce que évidemment, si on engage ça au titre du RGPD, tous les pays européens sont concernés. Donc ils regardent avec attention, et voilà, si des gens nous écoutent, veulent lancer des procédures similaires en Belgique, en Allemagne ou ailleurs, c'est à peu près open source, hein, on en discutera avec plaisir. Puisque
C'est
nous-mêmes, on
le...
s'appuie, alors c'est un droit différent, mais on s'appuie quand même sur des mobilisations américaines.
Bien sûr, c'est le l'activiste Max Schrems hein, dont on avait déjà parlé, autrichien qui est derrière cet organisme. À quoi on peut s'attendre en termes de temporalité sur la démarche que vous initiez là cette semaine? C'est quoi? C'est Dans une semaine, vous clôturez les formulaires d'inscription et puis la semaine d'après, Apple répond parce qu'ils sont très, très réactifs.
Alors pour l'instant,
Comment
on
ça se
sait via la
passe?
presse que Apple a préféré ne pas répondre. Et nous, on ne leur a pas écrit parce que ça doit passer par une mise en demeure très formelle. Et que pour l'instant, on est sur la collecte des dossiers, la validation des dossiers. On demande, comme on est sur des données, on applique le principe de demander le minimum du minimum, évidemment. On ne va pas demander la carte bleue ou la carte de sécurité. Voilà. Mais on a quand même besoin de démontrer que la personne existe, une pièce d'identité, et qu'elle est vaguement utilisatrice, et qu'elle possède un appareil, donc c'est un justificatif d'achat ou un copie, enfin, voilà, AppleCare, ou on peut imaginer, permettre de démontrer. Et une fois qu'on a ces dossiers, on peut commencer à analyser, et c'est important de pouvoir personnaliser le préjudice. C'est pas juste vous avez possédé, donc on est un peu obligé de rentrer. Voilà, est-ce qu'il y a des enfants autour de vous? Est-ce que vous considérez que votre métier peut être sensible? Et on a des surprises, hein, parce que salarié en crèche, en fait, la personne peut se dire, bah, c'est pas non plus secret défense, mais puisqu'elle est amenée à ce qu'il y ait des enfants autour d'elle, ou un instituteur, par exemple, c'est en fait un métier sensible. On parle même pas de gendarme ou journaliste. Le journaliste, finalement, se retrouve à interroger dans la matinée un syndicaliste, et puis un manifestant par ailleurs, ou un chef d'entreprise qui a plein d'idées. De l'autre. Donc,
Ou un médecin d'ailleurs.
médecin, bien sûr. Voilà, donc on va faire ce petit travail de personnalisation du préjudice pour pouvoir bah, pas demander la même somme pour des gens différents. C'est comme ça que le juge, à la fin, de toute manière, si le juge doit trancher, c'est comme ça qu'il fera. Donc autant lui mâcher le travail. Et puis, bah, voilà, mise en demeure, on espère là, mi-juin, début juin, mi-juin, pour laisser à Apple ouais, 2, 3 semaines pour répondre. Et après, sinon, bah, assignation au tribunal et ça prendra du temps, je pense. Peut-être honnête.
Oui, inévitablement, on s'imagine que c'est que le début. Concrètement, qui est concerné et puis comment on fait pour rejoindre le dispositif de manière très très pratique? Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Comment ça se
Alors, on
passe?
s'est inspiré justement de la procédure américaine qui retient 2014-2024. Même si, comme tu l'as dit, les révélations de 2019 par Thomas Loboniec. Apple a dit qu'ils avaient mis à jour, alors, pas tout à fait reconnu qu'ils avaient fait des trucs pas bien avant. Donc en fait, quand ils disent qu'ils arrêtent, ils ne disent pas non plus qu'ils ont arrêté, vu qu'ils n'ont jamais fait. Donc ça, voilà. Et puis par ailleurs, ce qu'ils ont fini par reconnaître sur le fait de ralentir les iPhones, les batteries, etc., l'obsolescence programmée, ils l'avaient nié avant, tout en reconnaissant que bon.
C'est vrai que c'est une horreur de la part d'Apple. Bon, et c'est pas les seuls,
Non,
hein,
non,
mais
bien sûr.
ils ont des défauts de communication qui sont aberrants parce que leurs choix peuvent parfois se justifier. Tu donnes l'exemple des batteries. Enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails, on l'a déjà expliqué par le passé, mais c'est vrai que c'est un manquement de com pur et simple, quoi. C'est vrai que c'est dingue. Ça les met dans la sauce pour rien.
Ouais, bon, ouais. Mais voilà, donc on a pris le parti de prendre la période la plus longue, y compris parce que pour des aspects de prescription, en fait, c'est à partir de. Donc il y a les prescriptions classiques, mais il y a aussi celles qui commencent à courir à partir du moment où tu es censé avoir connaissance du problème. C'est-à-dire que si je cache un corps, bon, bah, la personne, elle vient pas le lendemain, on comprend que, bon, bah, la prescription, elle commence à partir du moment où on la voit plus. Je ne devrais pas prendre cet exemple. Enfin, si je te vole ton téléphone, tu t'en rends compte assez rapidement et la prescription,
C'est un peu moins
ouais, voilà, la
anxiogène, mais
prescription,
je comprends
elle,
l'analogie.
voilà. Mais notamment pour les délits financiers, par exemple, etc., où les trucs disparaissent, eh ben, c'est à partir du moment où on s'en rend compte. S'il y a une manœuvre pour le cacher, la prescription, elle court pas, sinon ce serait trop facile. Donc là, il y aura certainement une question, c'est à partir de quand le consommateur français était censé savoir que, voilà, ça sera un débat. Donc pour l'instant, c'est ouvert le plus largement possible. C'est sans frais parce que c'est soit la protection juridique qu'on a dans les assurances habitation, soit un tiers financeur, une association qui apporte le soutien en début de procédure. Et si on gagne, il y a 10% des sommes qui sont retenues enfin, pour la rémunération des avocats et du tiers financeur. Mais encore une fois, ça nous amène assez loin. Donc le process aujourd'hui, c'est normal de ne pas demander de participation aux frais. Et aussi parce que ça permet d'avoir un plus grand nombre. Et dans cette affaire, le nombre importe. C'est-à-dire qu'on aurait pu démarrer à 10 clients qui nous donnaient quoi faire la procédure. Mais on comprend bien que voilà, quand il y a du monde, c'est vraiment l'idée d'un contentieux stratégique au sens où bon bah il y a Pierre, Paul, Émilie qui vont peut-être avoir un iPhone 9, enfin qui vont pouvoir se payer un iPhone 9, tant mieux pour eux. Parce que, en plus c'est ça, moi, ce que me disent les clients, c'est si on gagne, je pourrais me payer le nouvel iPhone, pas du tout pour aller à la concurrence. Non, ça c'est eux qui décident. Mais voilà, donc c'est leur affaire à eux évidemment. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu plus large, quoi, plus global, et même qui dépasse Apple, parce que voilà, si demain Apple se fait rattraper par la patrouille, ça servira quand même de leçon pour bon nombre de petits camarades d'Apple.
Je comprends l'adresse, tu peux nous la
Oui, je crois qu'on
rappeler?
l'a pas dit assez. Et écoutesabusives.fr.
HTTPS, effectivement, écoutesabusifs.fr. Vous avez d'ailleurs les infos. Il y a forcément plus d'infos dans cet épisode et dans cette conversation, mais vous avez déjà plein d'infos sur le site internet. Merci beaucoup, Julien. Si jamais les auditeurs souhaitent s'adresser à toi pour te poser plus de questions ou suivre ton actualité personnelle, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur
Eh
Internet?
ben, à mon site internet bayouavocat.fr, un peu sur Twitter, un peu sur Facebook pour les plus vieux. non, je disais là, s'il y a des gens qui sont motivés sur Meta par rapport à ce fameux opt-out ou sur TikTok, je pense que c'est vraiment matière à développer. Je voudrais pas qu'on croie que c'est de l'anti-Apple de base. Je pense qu'il y a
Ouais.
un enjeu de reprise de contrôle. Évidemment, TikTok ou Meta, là, c'est quand même très, très, très inquiétant. Donc, s'il y a des motivés, faites signe.
Bon, il y aura peut-être d'autres opportunités de combattre un peu ces géants de la tech. T'es pas passé sur Blue Sky, du coup. Tu
Ah, si,
restes
j'ai oublié.
fidèle à
J'ai
Twitter
un
pour
compte Blue
l'instant.
Sky, mais j'oublie assez régulièrement d'y aller. Hein.
Ça va te le faire relancer après cet épisode, du coup. Merci beaucoup.
Merci. Merci à
Merci
toi.
de m'avoir consacré un petit peu de temps. C'est chouette quand même, au passage, en conclusion, parce que quand on voit les articles et les relais de l'action, on peut avoir parfois des visions extrêmement partiales et puis enflammées sur cette démarche. Et je trouve ça intéressant quand même d'avoir cette opportunité de pouvoir converser avec toi dans un podcast. Donc, merci
Ah non, merci
beaucoup pour ton temps. Je suis Guillaume Vendée. Si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous dans votre app de podcast. Il y a des épisodes qui sortent toutes les semaines sur l'actualité des nouvelles technologies. Et puis, si jamais Tech Café a un sens pour vous, remplit un rôle que d'autres médias ne rempliraient pas et que ça vous manquerait de ne pas avoir Tech Café qui arrive dans votre app chaque semaine, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et vous pourrez même prendre part au financement du podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. We'll